Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Poète, écrivain, éditeur, traducteur, photographe, Denis Roche est mort à Paris en septembre 2015. Auteur d'une trentaine de livres, il fit partie de l'aventure de la revue Telle Quelle, dont il fut membre du comité de rédaction dans les années 70. Denis Roche a fondé plusieurs collections, dont la prestigieuse Fiction et compagnie, aux éditions du Seuil. Traducteur des Cantos Pisans et fin connaisseur du grand Ezra Pound, il s'est de plus en plus intéressé à la photographie, dont il fut à la fois un des grands créateurs et un théoricien important. Il fonda avec quelques amis, notamment avec Gilles Morat, les Cahiers de la photographie, et un grand nombre d'expositions lui ont été consacrées. Mais Denis Roche était avant tout poète, et il rendait poétique tous les domaines qu'il abordait. En 2002, Christian Rosset avait enregistré avec Denis Roche une série d'entretiens pour À Voix Nue qui nous permettent de prendre un contact vivant avec lui. Nous entendrons ici la première et la dernière des cinq émissions.
Denis Roche, au moment où nous faisons ces entretiens, vous avez une rétrospective à Paris de vos photos. Il y a la réédition en format de poche dans la collection Poésie chez Gallimard d'un volume de poèmes qui s'appelle Eros énergumène. Vous venez de publier en tant que directeur de collection plusieurs volumes au Seuil de Fiction et compagnie, ce qui permet de dire, pour commencer, que je ne sais pas à qui je vais poser ma première question. Est-ce que c'est un éditeur, un écrivain, un photographe ?
Essayez, on verra, ça tombera peut-être pile.
Alors peut-être que le moyen de s'en sortir, c'est de commencer par le commencement. Et donc peut-être de parler de votre jeunesse, puisque si vous êtes né à Paris, vous avez passé votre petite enfance assez loin de Paris.
Oui, je suis né à Paris par accident. En fait, j'aurais dû... Mes parents vivaient à l'époque en Centre-Amérique, où mon père travaillait. Et c'est à l'occasion de vacances en France qu'au moment de repartir, ma mère s'est aperçue qu'elle était enceinte. Et elle a dit à mon père qu'elle ne prendrait pas le risque d'accoucher dans le centre Venezuela où mon père devait travailler, dans le désert, c'était vraiment le désert, et que donc elle attendrait ma naissance et que je sois assez costaud, que j'ai quelques mois pour retourner là-bas. Donc j'aurais dû en fait être vénézuélien, franco-vénézuélien.
Il était prospecteur de pétrole, c'est ça ?
Oui. Et donc, au bout de quelques mois d'âge, ma mère m'a emmené là-bas. On a vécu près de 4 ans dans ce désert. Et ensuite, alors ça c'était évidemment début 38. Et on a été coincé là-bas par la guerre. Ensuite, on a passé 4 ans à Trinidad, qui à l'époque était une colonie britannique. Et puis ensuite, une année au Brésil, et on est rentré en France fin 46.
Vous aviez 9 ans.
Voilà.
Est-ce qu'il vous en reste quelque chose, ou est-ce que ça
beaucoup.
Oui.
Non, du Venezuela, rien du tout. Je fais partie de ces gens, semble-t-il assez rares, qui n'ont pas vraiment de souvenirs avant l'âge de 5 ans. Je crois même que mon plus ancien souvenir est le premier jour de classe, et donc j'avais 6 ans à Trinidad. Je ne pense pas avoir de souvenirs avant. En tout cas, aucun du Venezuela. À Trinidad, oui, beaucoup, énormément.
Est-ce que vous avez, peut-être pas une nostalgie, mais un désir d'aller dans ces lieux à nouveau, de vous pencher ?
Je suis retourné à Trinidad de façon presque impromptue, en 89. Ça a été un très très étrange voyage, parce que je pensais ne rien retrouver, ni du paysage, ni de la ville, ni des deux maisons où nous avions habité. Et très curieusement, j'ai retrouvé l'hôtel où on allait à Port of Spain, la capitale, quand mon père avait un week-end. J'ai retrouvé le même hôtel, inchangé, le Queen's Park Hotel. Un hôtel des années 30. J'ai retrouvé la côte, la plage insensée à Mayaro, où on allait de temps en temps passer 8 jours, inchangée. Exactement pareil. Il n'y avait pas une maison qui avait été construite. Et j'ai retrouvé l'une des deux maisons qu'on avait habitées, absolument inchangée aussi, alors que c'était une maison en bois et briques sur des pilotis et un toit de tôle ondulée. La maison avait été refaite constamment à l'identique. J'ai retrouvé exactement la même, le même jardin autour, pareil. C'était très étrange. Et pour tout dire... On est reparti très vite de là-bas parce que c'était... une chose est de faire un voyage en arrière et de comparer. Autre chose est de faire un voyage en arrière aussi loin quand même dans le temps, parce que entre 44, 45 et 89, ça fait beaucoup, beaucoup de temps, et de trouver aucune différence, ça fait un peu peur quand même.
Il n'y en a vraiment aucune ?
Aucune. Sauf que c'est devenu indépendant, mais je crois que c'est devenu indépendant en 72, et les Anglais et les Américains ont bloqué complètement le pétrole de Trinidad, qui avait été nationalisé. Évidemment, ça leur avait pas plu, et ils ont bloqué complètement l'expansion de cette île, qui est restée exactement identique à son passé, sauf qu'il n'y a plus de blancs. Nous étions les seuls blancs dans les rues de Port of Spain, la capitale.
Est-ce qu'avant d'entrer en France, vous aviez déjà commencé à vous imaginer, peut-être pas poète ou photographe ou je ne sais, ou écrivain, mais vous imaginer dans la peau de quelqu'un qui va produire quelque chose, qui va inventer quelque chose ?
Rien du tout. Rien du tout.
Ça, c'est une question un peu bateau, mais qui est intéressante surtout.
En général, les écrivains répondent qu'ils faisaient déjà des dissertations admirables ou des poèmes à l'âge de 5 ans. Mais non, moi je suis quelqu'un qui s'est intéressé à la littérature tardivement à mon arrivée en fac, pas avant.
Il n'y a pas que la littérature dans votre vie, est-ce que vous êtes intéressé à d'autres formes d'art ?
Non, la photo est venue plus tard, oui, la peinture en même temps, oui, tout a débarqué à peu près en même temps dans ma vie. L'art, tout simplement. Mais oui.
C'est venu brutalement. On pourrait imaginer qu'il y a eu un choc, alors.
Oui, mais je suis incapable de le relier à une lecture précise. Non, je faisais des études. Je faisais des études à la fac pour entrer en médecine. Donc la physique, la chimie. Me barber intensément. Je pense que l'état de flottement dans lequel était mon esprit l'a rendu perméable comme ça aux impressions de lecture. Mais je suis incapable de relier ça à des livres précis ou à un auteur précis ou à... Non.
Il faut dire que c'est la fin donc des années 50, hein, oui. En tout cas après 55, hein, quelque chose comme ça. Le paysage ferait peut-être rappeler quel était le paysage en France à cette époque.
Le paysage de la poésie.
Puisque vous avez commencé par la poésie, oui.
C'était une époque, comment dire, c'était l'avant-guerre complètement, puisque la plupart des grands poètes, les grands écrivains tout court, de la première moitié du siècle étaient encore vivants et en pleine activité. Hein, à part Artaud, je veux dire, tous les autres étaient là. Et les poètes étaient extrêmement actifs, que ce soit Ponge ou Aragon ou Michaud, etc. Ils
Breton.
Étaient tous en pleine activité, Breton, Bataille, je veux dire, tout le monde était là au travail. Et les livres sortaient, donc c'était, comment dire, quand j'ai publié mon premier livre en 63, la poésie, c'était tous ces gens-là. Et les seuls qui étaient apparus depuis la guerre, c'était bonne foi du boucher du pain.
Ça vous intéressait à l'époque ? Est-ce que vous sentiez
Oui, forcément, je trempais un peu là-dedans. Ça m'excitait pas follement, mais j'étais très attentif, oui.
Parce qu'au fond, il y avait à cette époque des tensions assez fortes entre ce qui pouvait rester ou être encore vivant du surréalisme et puis une nouvelle tendance, si on peut dire, qui serait peut-être un peu plus formaliste, en tous les cas plus préoccupée par la forme. Est-ce que vous sentiez cette...
Oui, cela dit, quand même, pour cette époque-là, je peux dire que deux des écrivains, alors là, on quitte un peu la mouvance de la poésie, mais les deux chocs les plus, enfin, dont je me souviens vraiment, c'était Klossowski et Bataille. Oui. Ça, c'était fort. Mais ça, c'était pas l'avant-guerre, ça. Voilà, on était déjà, on débordait déjà sur quelque chose de très différent, quand même.
Mais quelque chose qui va apparaître un peu plus tard, on y reviendra, qui était la question de l'avant-garde ou un retour aux avant-gardes. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Est-ce que ça vous préoccupait? Est-ce que cette idée, par exemple, d'écrire de la poésie ou de vous engager, même physiquement dans cette activité au début,
c'est
bien ça?
D'être dans ce que j'écrivais, de me sentir absolument en rupture, oui.
Dès le début.
Ah oui. Ah oui, oui, ça je peux dire que j'ai commencé à écrire vraiment par une sorte de pulsion de rejet de ce que je lisais. Ça a l'air arrogant de dire les choses comme ça, mais je crois pas qu'il puisse y avoir dans quelque art que ce soit création sans arrogance. Ça n'existe pas. Bien entendu, après, on camoufle ça sous des vêtements plus aimables, mais il y a une grande arrogance à créer, forcément, parce que ça veut dire, d'une manière ou d'une autre, qu'on n'est pas d'accord avec ce qui précède ou ce qui se fait en même temps et qu'on veut rompre avec ça. Sinon, on ne crée pas. C'est évident. Je veux dire que ce soit pour fabriquer des soutiens-gorge ou dessiner des carrosseries de voiture ou peindre un tableau abstrait. Je veux dire, c'est la même arrogance qui est en jeu.
D'ailleurs, c'est drôle parce que ce premier livre, c'est Forestière Amazonide, qui a été publié, c'est ça, par Carole.
Oui, ça, c'est pas un livre, c'était dans un collectif. Oui, un collectif où il y avait trois écrivains.
Ça fait un petit volume quand même.
Oui, bien sûr.
Et alors, il y a deux choses qui me frappent dès le début. D'abord, il y a un avant-propos. C'est-à-dire le jeune écrivain de 25 ans
mais
à peine.
Ça, je peux répondre facilement à ça pour mes premières publications, mes premiers livres. Peut-être parce que c'était probablement très en rupture avec ce qui se faisait à l'époque, on m'a demandé de m'expliquer dans un avant-propos.
Alors vous l'a demandé, c'est pas venu de vous, parce que non. Ce qui me frappe, c'est que vous écrivez dès le début « La poésie n'a d'importance que par l'acte créateur qu'elle suppose ».
Ah, vous voyez, j'avais oublié ça.
Directement. Ouais. Et non, donc ça, il y a une définition Kérol, de la poésie.
C'est Jean Kérol qui m'avait demandé de faire un préambule pour m'expliquer.
Et sur ça, le premier mot du premier poème publié, peut-être pas le premier poème écrit, c'est l'adrénaline.
Oui.
Ça doit monter dans la poésie.
Oui. Oui.
Parce qu'on peut commencer, on n'est pas au commencement, mais on ne va pas cesser de commencer, de recommencer dans cette discussion.
Je suppose dans mon innocence que je veux dire que quand on crée, que ce soit en écrivant ou autre chose, il y a forcément une bouffée d'adrénaline. Violente et rapide, je sais pas, moi ça a toujours été le cas, curieusement, quoi que j'écrive d'ailleurs, j'écris en ce moment un article pour une revue sur le livre de quelqu'un d'autre, ça me met dans la même tension et dans la même crispation, le même énervement que quand j'écrivais Eros et Energumène ou un livre de ce genre.
Vous écrivez aussi dans un autre poème là, de ce livre, j'écris des poèmes à mon insu qu'aucune aspiration ne mène par la bride. On est proche de l'écriture automatique ou d'autre chose qui est
non,
une sollicitation
non,
du,
non, c'est pas
du hasard, par exemple?
Non, je relis ça plutôt à la vitesse d'écriture. Là, ça m'a beaucoup préoccupé pendant ces 10 années d'écriture poétique. C'est la vitesse qui caractérisait l'enjeu que je mettais là-dedans. Et donc, en écrivant très vite, oui, c'est vrai que c'est pas de l'improvisation, on peut pas appeler ça comme ça non plus. J'allais très très vite et ça, j'avais conscience que ça, comment dire, que l'inconscient jaillissait, que je maîtrisais un ensemble de forces, de pulsions, de résistances. Dans une vitesse telle que... bon, ben voilà.
Est-ce que la question du nombre ou de la forme vous préoccupait?
Du nombre?
C'est-à-dire quand vous passez à la ligne, puisque le principe du vers, oui, c'est qu'on va à la ligne.
Oui.
Plus tard, il y aura des solutions radicales pour ça. Mais au début, est-ce que vous alliez à la ligne, je sais pas, comme ça venait.
Même dans le vert libre, on va à la ligne.
Oui, mais là, on va pas à la ligne n'importe comment.
Le principe de l'économie politique est un principe d'économie quand même sur la page, toujours.
Est-ce que vous étiez préoccupé justement de réfléchir sur cette économie dès le début?
Bah oui, bien sûr.
Et de quelle manière?
Bah en faisant le poète.
Est-ce que vous aviez une obsession de compter, par exemple? Est-ce que vous avez une manière de rompre ou ça se faisait physiquement?
Non, ça se faisait physiquement très vite, très, très, très immédiatement. La pulsion. Je réécrivais pas, je réfléchissais pas au milieu d'un poème. Ça allait très vite. D'ailleurs, il me semble que, je sais plus, c'est dans Les idées centismales de Miscellanis, il y a toute une portion de poème où le temps de rédaction est inscrit en bas. Ça, c'était en référence aux peintres de l'abstraction lyrique et les peintres gestuels, dont certains avaient fait ça, dont l'un d'eux qui était un peintre danois qui s'appelait Sonderborg. J'allais voir ses expositions, j'étais très très frappé par ça, la vitesse d'inscription comme ça sur la toile ou les papiers. Et en dessous, la seule référence qui était donnée, c'était 10h22, 10h43.
Et la question de l'image qu'on associait, par exemple.
Ah, elle est active et à l'œuvre sans arrêt, là. Sans arrêt. Mais il faudrait étendre le mot métaphore à toutes sortes de choses. Je veux dire, pas seulement ce qu'on appelle métaphore, mais rencontre, opposition, rupture entre des mots, osmose entre des mots, jeu de mots, assonance, etc. Quoi. Je bousculais ça. J'avais quelquefois plus l'impression d'être un compositeur de musique et d'avoir affaire à des règles de l'harmonie, par exemple, qui m'échappaient totalement. Mais j'avais conscience que je fabriquais mes poèmes un peu selon des schémas comme ça, des codes que je ne connaissais pas, mais que je traversais comme ça très vite.
Il y a un côté lyrique aussi.
Par la vitesse. Oui, je suis content que vous prononciez ce mot qui a été tabou pendant tellement d'années. Condamné physiquement, moralement, à l'époque de Tel Quel et d'autres encore.
Vous n'y êtes pas encore à Tel Quel au début?
Non,
en parler, mais
assez vite quand même, puisque j'ai publié Forestière Amazonie, ça devait être 62, je crois, et 63, c'est Récits complets, qui faisait partie du lancement de la collection Tel Quel.
Alors, vous voulez qu'on en parle peut-être? Vous êtes tout de suite coopté par Tel Quel? Vous allez aller voir qu'est-ce qui se passe? Faut dire déjà que Tel Quel, c'était un groupe d'écrivains. Peut-être que c'est un peu oublié aujourd'hui, j'en sais rien, mais regroupé autour, entre autres, de Philippe Sellers, pour parler de quelqu'un de bien connu aujourd'hui, et qui était une avant-garde très active avec des
à l'époque où j'y suis arrivé, c'était jeune, hein. C'était Sellers et Philippe Sellers et Jean-Yves Dernelier qui dirigeait et patronnait complètement. Ils s'entendaient déjà plus beaucoup, mais ils étaient très actifs tous les deux. Donc ça s'est passé très simplement quand j'ai publié dans le recueil Écrire. Quelques temps après, Jean Cayrol m'a dit, je me souviens très bien de sa phrase, « Nos amis tels quels veulent vous rencontrer ». Alors j'ai traversé un couloir, et je suis entré dans le bureau de Tel Quel. C'était comme ça.
Qu'est-ce qui vous reliait à eux? Le choix de s'intéresser à Bataille ou à Francis
Ponge? Ça n'a pas été aussi précis que ça. Moi, je débarquais d'un milieu où la littérature n'existait pas, où la culture littéraire était quelque chose d'extrêmement ténu, pour ne pas dire pire. Je ne connaissais strictement personne qui ait écrit, publié ou quoi que ce soit de ce genre. Et donc j'ai découvert, en arrivant à Tel Quel, par le bureau de Jean Cayrol, des gens de mon âge qui écrivaient, qui travaillaient ensemble. J'ai découvert à la fois la littérature, les écrivains, l'édition, la revue et l'avant-garde. Avant même de pouvoir dire que je m'intéressais à une personne précise ou à une œuvre précise. Il y avait à l'époque Ricardou, Thibaudot, qui avaient publié leur premier livre chez Minuit. Il y avait Sellers, il y avait Jean Edern, il y avait des gens.
La poésie n'était pas la chose fondamentale.
Hein. Non, pas du tout.
Et vous, c'était vraiment la poésie, point.
Ah oui, c'était pour ça que j'arrivais là. Oui, oui. Mais ça intéressait Solers, beaucoup.
Ce qui est aussi à noter dans votre poésie à cette époque, c'est que d'une certaine façon, elle a l'air de refuser tout maniérisme. On a parlé de la métaphore, tout ça. Tous les poètes utilisaient au fond les mêmes figures, mais de manière peut-être de plus en plus maniérée. C'est peut-être ça qui se passait avec les poètes plus âgés. Quand vous disiez que vous ne vous sentiez pas tellement concerné par eux, on a l'impression que votre travail était d'une certaine façon d'être peut-être pas brut, mais presque. En tout cas, de dépoussiérer ça.
Oui, sûrement.
Et comment ça fonctionne alors? Vous m'avez dit, bon, par ce côté
comment
physique.
Ça fonctionne. Par le côté physique, je peux vous dire une phrase que j'ai notée en venant là, que j'ai écrite, je ne sais plus dans quoi d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était au moment où j'ai ressorti mes 4 volumes de poésie en un seul, sous le titre « La poésie est inadmissible ». Et dans une interview, j'ai dit... Je me suis mis sur la poésie à la verticale, tête en bas, et m'en servant tantôt comme d'une vrille pour la perforer, tantôt comme d'une meule pour la braser. Nous avons ainsi tourné l'un contre l'autre pendant 10 ans. Est-ce que ça répond un peu à votre question ? Mmh. Alors, évidemment, je ne sais pas si vous voulez l'aborder là, mais tout ce vieux problème de mes rapports avec la poésie... On tournait peu à peu et seulement et uniquement autour d'un titre d'un certain nombre de poèmes que j'avais publié, je ne sais plus en quelle année, 67 je crois, qui était « La poésie est inadmissible, d'ailleurs elle n'existe pas ». Et c'est terrible, c'est de ma faute d'ailleurs, ce slogan, si vous voulez, a remplacé dans l'esprit de beaucoup de gens l'œuvre que j'ai écrite, qui fait quand même 4 volumes. Et comme si je n'avais écrit que pour dénoncer la poésie. Ces jours-ci, là, à l'occasion de la sortie d'Eros Energumène en poche chez Gallimard, le premier article qui est sorti dans un journal suisse, un article intéressant d'ailleurs, et long et bien argumenté, le titre était « Denis Roche, 2. Le jour où la poésie a été assassinée ». C'est ce qui est, vous voyez, une espèce de...
C'est le poète qui a été assassiné normalement.
Oui. C'est un titre extravagant quand même, extravagant.
N'empêche qu'on met le doigt sur quelque chose, c'est une provocation en même temps.
S'il m'a fallu 4 livres et 10 années de travail pour assassiner la poésie, est-ce que vraiment ça en valait le coup? Je ne sais pas, je pense plutôt que j'ai édifié une œuvre poétique qui tournait autour évidemment de la définition même de la poésie. Et c'est étrange parce que ce slogan a été commenté énormément, il est encore, y compris dans les livres de classe, et toujours dans une ambiguïté extrême, alors que j'ai toujours dit ce que j'entendais par ça. C'est extrêmement simple, je disais si la poésie n'est pas inadmissible, elle n'existe pas. Il n'y a de grande œuvre de création poétique qu'inadmissible. Ça en fait très peu. Mais quelles œuvres ? C'est d'une banalité extrême de dire ça. Cette phrase s'est retournée contre moi constamment. Mais pourquoi pas ? C'est très bien.
Ce qui a fait d'ailleurs qu'un de vos amis, de votre génération, enfin un petit peu plus âgé, mais pas beaucoup, qui est Jacques Roubaud, a dit que d'une certaine façon, vous êtes devenu un classique.
Mais Jacques Roubaud a écrit des textes, plusieurs, tout à fait magnifiques, à mon endroit, et je l'en remercie. Quand Récit complet est sorti, oui, c'est vrai qu'un certain nombre de poètes contemporains l'ont salué dans différentes revues, que ce soit Jacques Roubaud, Michel Duguay ou d'autres. Après, ça s'est... l'image s'est détériorée dans ce qu'on appelle l'opinion. Voilà. Et l'opinion, comme on sait, perdure terriblement. C'est vrai aussi qu'à l'époque où j'ai commencé à écrire de la poésie, j'en voulais terriblement à la poésie. J'en voulais énormément à ce que précisément les poètes et l'opinion entretenait de l'imagerie poétique.
C'est le poétisme, ce qu'on appelle le poétisme que vous liez.
Et continue de l'entretenir aujourd'hui.
Bien évidemment. Pas pour la poésie des couchers de soleil, on l'a compris. À la rigueur, pour les couchers de soleil, mais pas pour la poésie des couchers de soleil, c'est
vous
ça.
Vous savez, chez Mallarmé, il y a beaucoup de couchers de soleil aussi.
Ils sont poétiques ?
Oui, chez Rilke, il y a des roses qui fanent, etc. Non, non, mais sans caricaturer à l'extrême. Le coup de dé était quand même une entreprise fabuleuse. Valérie, c'était magnifique. Montréamont, c'est prodigieux. Rimbaud, c'est toujours inadmissible. Toujours. On fait encore apprendre dans toutes les écoles Dormeur du Val aux enfants. On leur fait pas apprendre autre chose de Rimbaud. Dans l'imagerie publique, républicaine, c'est l'opinion qui prévaudra toujours. Rimbaud, c'est le Dormeur du Val. Ça s'arrête là.
Et vous êtes le réveilleur du Val ?
Ben, je suis pour que les œuvres soient considérées dans leur but ultime.
C'est-à-dire ?
Dans leur force créatrice la plus inadmissible.
Et le mot inadmissible est valable pour l'éternité ?
Oui, oui, sans doute, oui. Ben oui, bien sûr. Ben évidemment. Évidemment. Même Apollinaire, regardez comme c'est. Même Apollinaire qui a été une irruption créatrice prodigieuse dans la poésie. Prodigieuse. Regardez comme aujourd'hui c'est considéré de manière assez niaise, raconteuse, pas plus, alors qu'il a fait œuvre d'une virtuosité phénoménale quand même.
Le problème, c'est pas la poésie, c'est la lecture de la poésie. En fait.
Oh, c'est la poésie, c'est les poètes, c'est la lecture de la poésie, oui, tous ensemble.
Denis Roche, il y a déjà pas mal de temps, pas mal d'années, vous avez fait un éloge de la véhémence. C'est un de vos titres, je ne me trompe pas.
Oui.
On a eu l'occasion de dire assez souvent que votre écriture et votre pratique, surtout littéraire finalement, mais bon, vous pouvez le raccorder aussi à votre pratique de photographie, et c'est quelque chose finalement d'assez violent.
On ne peut pas parler de véhémence dans la photographie. C'est un mot qui ne colle pas.
Non, mais dans l'écriture...
On peut parler de lyrisme.
Donc on relie la véhémence au lyrisme. Mais ce que je me demandais, oui. C'est que dans votre jeunesse, on en a parlé tout au long de cette semaine d'entretien, il y avait quelque chose de très fort sur ce plan-là, et qui amenait d'ailleurs dans les avant-gardes de l'époque, des années 60, à des ruptures violentes, comme il y avait eu dans le temps passé avec le surréalisme et d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui, cette nécessité, si je comprends bien, de la véhémence et de cette pratique est encore possible ?
Oh, vous voulez dire dans l'acte créateur ou dans la prise de parole publique ?
Est-ce que les deux sont pas liés à un moment donné ?
Oui, il y a des moments comme ça, des moments de crise, oui, où il faut un peu faire irruption dans le monde extérieur. Mais enfin, ça n'est pas vraiment obligatoire.
Parce qu'on a l'impression que très souvent, vous avez eu l'occasion même de publier des choses qu'on appellerait vulgairement des coups de gueule.
Oui, oui.
Et puis qu'en même temps, il y a une certaine apparence paisible et tranquille, en tous les cas, qui cache son inquiétude, qui est à l'œuvre malgré tout, qui est le background humoral, je ne sais pas comment dire, du travail.
Il y a toujours un moment où il faut faire irruption chez les autres et dire « vous me faites chier ». Bon, heureusement, il vaut mieux que ça n'arrive pas trop souvent, parce que on ne va pas devenir un professionnel de ce genre d'apostrophe. Et puis on crée forcément dans une solitude très grande, solitude que j'ai toujours adorée. En plus, il n'y a rien de plus. C'est le bonheur pour moi de me retrouver comme ça, aspirer à l'intérieur de mon imagerie mentale et de l'écrire ou de la projeter dans le viseur de l'appareil photo. La véhémence, oui, je ne sais pas si on peut appeler encore ça véhémence, mais on est dans, comment dire, du point de vue de la création en littérature, c'est poncif de le dire, on est dans une époque molle quand même depuis assez longtemps, dans laquelle il y a des livres formidables qui paraissent sans arrêt, c'est pas la question. Mais le problème du paysage littéraire, c'est que Il est fait de minuscules solitudes irréconciliables entre elles. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de revue. Je veux dire, il y a... Bon, c'est...
Il n'y en a pas ou il n'y en a plus ?
Non, non, il y en a. Il y a énormément de revues.
Mais, non, mais je veux dire, de mouvements qui fonctionnent.
Il n'y a pas le mouvement. Le mouvement n'apparaît pas. Et donc, c'est... Voilà, on est donc forcément renvoyé à sa propre solitude intensément. Mais moi, j'aime bien ça.
Et vous pensez, c'est parce qu'on a, vous avez vécu la fin d'une époque, qui était la fin des avant-gardes, comme certains disent, ou c'est parce que c'est comme ça, et puis ça...
Ça a arrangé tout le monde de dire que c'était la fin des avant-gardes et qu'on liquidait enfin tous ces gens qui emmerdaient le monde à des époques régulières. Il y en aura d'autres, c'est évident, c'est cyclique ça, j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais ça a arrangé tout le monde, y compris les gens qui faisaient partie de la dite avant-garde, qui à un moment donné avaient besoin de s'émanciper de ça et de cette image qu'on avait d'eux. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis évidemment les autres ont pris leur revanche d'une façon sauvage, vraiment sauvage. Voilà, bah, très bien. Que chacun continue sur son terrain à faire ce qu'il a à faire.
Sur ça, Denis Roche, il y a une chose dont on a un peu parlé, mais pas tant que ça, c'est que vous travaillez dans l'édition. Et donc, vous dirigez notamment au Seuil, depuis pas mal de temps, une collection que vous avez d'ailleurs créée vous-même, hein, qui s'appelle Fiction et compagnie, et qui a quand même qui a publié plusieurs centaines de livres maintenant. Est-ce que ce travail de publication appartient, enfin, est partie prenante de votre travail créatif ?
Non.
Non. Je veux dire que c'est purement alimentaire.
Bah, c'est le travail, la profession que j'ai choisie au début de ma vie publique. Et je suis très heureux de faire ça. J'ai toujours aimé ça. C'est très excitant. On a affaire sans arrêt à des gens qu'on ne connaissait pas, des gens nouveaux, des gens qui apparaissent comme ça. J'ai toujours été animé d'une extrême curiosité à l'égard des gens. Qu'ils écrivent ou qu'ils n'écrivent pas, d'ailleurs. Je trouve qu'il n'y a rien de plus formidable que de rencontrer quelqu'un dans mon bureau aux éditions du Seuil que je n'ai jamais vu de ma vie, avec qui je n'ai strictement aucun rapport, de voir apparaître quelqu'un qui se matérialise derrière un manuscrit que j'ai lu. Et ayant lu le manuscrit, je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme qui va venir. Donc je trouve ça presque insensé. Voilà. Et les conversations qu'on a, dès la première rencontre, je trouve ça formidable. J'arrête pas de poser des questions, bombarder les gens de questions saugrenues, intimes, sur leur vie, leurs activités, leurs occupations. J'aime énormément ça. J'ai toujours vraiment aimé ça. Mais ça n'a aucun rapport avec ce que je fais comme écrivain ou comme photographe, bien sûr.
Non, mais vous avez quand même des choix. Et en plus, on pourrait imaginer, après ce que nous venons de dire, que vous pourriez être un guetteur de quelque chose qui s'annonce.
Moi,
qui ne s'annonce rien.
Non, ce sont des individus. Ce sont des individus qui n'ont en général rien à se dire entre eux. Parce qu'évidemment, quand vous commencez à publier, vous avez publié quelques livres, forcément, par hasard, comme ça, par des libraires, par des rencontres, des colloques, je sais quoi, vous êtes infailliblement en contact avec d'autres écrivains. J'observe qu'en général, ils n'ont rien à se dire entre eux, pas vraiment. Hein. Mais pourquoi pas ? C'est très bien comme ça. C'est très très bien. On s'en fout du monde de la culture, qui organise sans arrêt des rencontres, des débats, des conférences, des colloques. On s'en fout de ça. Les gens, ils sont là, chacun fait ce qu'il a à écrire, et personne ne peut le faire bifurquer. Personne, ça n'existe. C'est un mythe, l'éditeur qui oriente la production d'un écrivain. Ça n'existe pas, ça. Et donc ça, c'est vraiment bien, parce qu'il y a une... En somme, je suis un poste qui permet d'observer sans arrêt l'extraordinaire degré de résistance de l'individu. À son époque, à l'opinion publique, à la critique, à ce que les gens pensent, vont dire de leurs livres. C'est phénoménal, ça.
Cette histoire, donc, de la véhémence, j'y reviens encore une fois, malgré tout. Est-ce que vous n'auriez pas le désir, et vous l'avez eu d'ailleurs en partie en publiant certains livres avec vos anciens amis tels quels, vous avez publié une histoire de tel quel, est-ce que vous n'auriez pas vraiment envie de remettre, non pas au goût du jour, parce que ça serait péjoratif, mais remettre là maintenant à la disposition de tous ce qui a été au fond votre vie, votre jeunesse?
Non, ça appartient à l'histoire, ça. Classé une fois pour toutes.
Et pourtant, quand vous étiez au départ dans la poésie, vous en reveniez tout le temps à Rimbaud, à la poésie ancienne. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au fond, tout ce travail dont on a parlé toute cette semaine ne pourrait pas être vraiment digne d'une nouvelle critique, pour reprendre une expression
Je vais vous répondre, comme Michel Rocard quand il était Premier ministre, laissons ça aux commentateurs, qui sont nombreux en plus.
Et ça voudrait dire que ce n'est plus vivant, alors, si on laisse ça aux commentateurs?
Non, pas du tout. Non, vous plaisantez. Non, on est dans les dictionnaires ou on n'est pas dans les dictionnaires, on est dans les livres de classe ou on n'est pas dans les livres de classe, on s'en fout. Tout le monde s'en fout, là. J'ai observé le même jour, là, il y a 3 jours de ça, que sur la couverture du dictionnaire encyclopédique Hachette qui vient de sortir, qui est l'équivalent du Petit Larousse, j'observais que sur la couverture, la jaquette de ce dictionnaire, il y avait 5-6 regards comme ça de personnalité. Et l'un de ces regards était Philippe Solers. Et le même jour, j'ouvrais le livre, le manuel, l'histoire de la littérature au XXe siècle, que l'un de mes fils, qui est en Cagne, est censé travailler cette année, Solers n'est même pas mentionné dedans. Tel quel n'est pas mentionné. Rien du tout. Alors vous avez Modiano, Christine de Rivoire, vous avez tous les gens comme ça. Et il n'y a pas un mot, sur tel quel, Solers, moi, évidemment, et les autres. Donc il faut laisser comme ça. On s'en fout complètement.
C'est pas feindre l'indifférence?
Oui, écoutez.
Ou est-ce que vous ça savez, voudrait dire que les œuvres vivent par elles-mêmes et qu'on ne peut rien faire pour elles?
Je vais vous répondre. D'abord, je n'aime pas les généralités. Mmh. Dans Louvbass, dans son titre et dans certaines pages de ce livre, je faisais référence au mouvement philosophique athénien de l'Antiquité qui s'appelait les cyniques. Le cynisme, ça s'est appelé comme ça parce que les philosophes que réunissait Antisthène dans un gymnase, le gymnase s'appelait le gymnase des chiens ou choses comme ça, bon peu importe, donc ils se sont appelés les cyniques. Antisthène revendiquait le droit d'ignorer absolument toute forme de généralité. C'était le principe même de la doctrine des cyniques. Ça voulait dire qu'il refusait tout système, toute l'action humaine, toute la réflexion humaine, toute la destinée humaine se ramenait à des individus. Et donc, ça excluait, son enseignement, excluait absolument tout système religieux, philosophique, entre autres. Ce qui aujourd'hui pourrait être médité par quelques-unes de nos civilisations actuelles. Je veux dire aussi bien les Américains que les Talibans. Antisthène ne s'y reconnaîtrait pas. Et je suis assez partisan de ça. Louvbass, c'était en hommage aux cyniques et en hommage évidemment à la Louve qui garde l'entrée des enfers chez Dante. Bon, peu importe. Et donc les généralités, c'est-à-dire les livres de classe, les dictionnaires, l'opinion publique, les livres de critique, tout ça ne veut rien dire. Il y a quelque temps est sorti un dictionnaire au PUF, un énorme dictionnaire de 1000 pages sur la poésie. Du XXe siècle, je ne sais plus quel est le titre exactement. Sous forme de dictionnaire. Donc je regardais l'article qui m'était consacré, qui parlait, alors que c'est un dictionnaire sur la poésie, qui recensait tous mes livres. Comme si c'était la même chose, y compris ma photographie. Mais qui se terminait en disant, c'est écrit par quelqu'un que j'aime bien en plus, ça se terminait en disant, mais de toute manière, à propos de la photographie de Denis Roche, il ne faut jamais perdre de vue que c'est compris dans son œuvre poétique. Non. Évidemment, non, pourquoi? Mais quel rapport? Je composerais un opéra, on dirait oui, mais c'est le prolongement de la poésie par d'autres moyens. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je serais peintre, ce serait la même chose. Je serais cinéaste, ce serait la même chose. J'ai deux œuvres en moi la littérature et la photographie. Voilà, c'est deux œuvres distinctes. Elles sont beaucoup plus distinctes que par exemple chez Michaud, qui a été... Je peux peut-être dire que c'est parmi les écrivains du XXe siècle celui pour qui j'ai le plus grand respect, c'est-à-dire un respect absolu. Chez lui, l'activité du peintre et dessinateur et l'activité de l'écrivain se rejoignaient quand même beaucoup. Mais quand même, quand il avait montré, poussé par un de ses amis, ses dessins, alors qu'il en faisait déjà depuis longtemps, à Daniel Cordier, je crois que c'était Daniel Cordier, Michaud avait été tellement humilié par l'attitude de ce marchand galeriste qu'il avait dit « plus jamais je montrerai ça à qui que ce soit ». Et Cordier, rentré chez lui, a réalisé tout d'un coup qu'il s'était trompé en manifestant la condescendance et de l'indifférence à Michaud. Il s'est rendu compte qu'il se trompait, qu'il y avait quelque chose là de formidable, qui était strictement pictural. Et il a relancé Michaud, qui a refusé de le voir pendant longtemps, avant de lui rouvrir la porte de son atelier. Bon, peu importe, ces deux activités différentes que j'ai établies entre elles, des passerelles, par jeu de l'esprit, comme ça, de temps en temps, oui, bien entendu, maintenant c'est devenu impensif. C'est-à-dire qu'on me téléphone ou on m'écrit sans arrêt de toutes sortes de pays en me disant « Voilà, on organise un colloque, on fait une exposition sur le thème littérature et photographie. » Ou alors c'est photographie et littérature. Bon, alors évidemment, au début, il y avait Hervé Guibert et moi. On était deux, au moins, à être invités à ce genre de trucs. Alors évidemment, Hervé est parti. Je ne dirais pas que je suis le seul, mais on a tellement pris l'habitude de me... Comment dire? Comme si Denis Roche et d'autre part, littérature et photographie, étaient une espèce d'homophonie. C'était comme ça. Mais bon.
Et ça, si on pense à Michaud, il n'y a pas que lui... Il y a ce scandale d'avoir fait deux choses qui soient plus ou moins réussies. C'est pas très admis que les deux choses soient réussies. Et en plus, chez Michaud, si on s'intéresse vraiment à lui, on s'aperçoit que c'est un musicien rentré aussi.
Oui, bien sûr. Et regardez Dubuffet, dont il y a une rétrospective formidable en ce moment à Beaubourg. Dubuffet est évidemment un peintre, mais qui a énormément écrit. Et des textes absolument inouïs. Je veux dire, il y a une œuvre d'écrivain, absolument. S'il avait jamais peint, il y aurait cette œuvre d'écrivain. Bon, ce serait peut-être moins connu. Mais il y avait deux personnes en une.
Ça me fait penser au cinéma où certaines personnes qui sont vraiment passionnées par le cinéma, je veux dire, en tant que lieu d'expérience, disent qu'il faut toujours aller regarder les mises en scène de comédiens, les films d'acteurs, parce que tout d'un coup, ils sont passés de l'autre côté de la machine.
Bien sûr.
On pourrait dire que cette histoire d'aller-retour des deux côtés de la machine est une expérience qui est presque une expérience humaine fondamentale.
Oui, ils tendent à la même chose quand Sean Penn est acteur ou quand il réalise un film, et je dois dire que comme réalisateur, il est phénoménal, de maîtrise, c'est vraiment prodigieux, il concourt quand même au même art. C'est pas tout à fait la même chose.
En attendant, ici, c'est quand même très mal vu. Vous avez mis le doigt dessus, si je puis dire. Il faut forcément qu'il y ait des passages qui expliqueraient, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme si c'était un divertissement, un art du divertissement, il faut
pouvoir être assez fort pour être constamment dans le divertissement. Et il faut pouvoir être assez fort pour être constamment dans la radicalité. Même si elle échappe au regard des gens, par exemple. Dans Louvre-Basse, évidemment, dans Louvre-Basse, il y a énormément de choses. J'ai parlé de toutes sortes de choses. Mais on a retenu de mon œuvre d'écrivain, la poésie est inadmissible, d'ailleurs, elle n'existe pas. Qui continue de faire scandale, d'énerver les gens et de les gratter. Mais dans Louvre-Basse, j'ai écrit une même phrase, d'ailleurs, à plusieurs reprises dans le livre. Personne, jamais, ni critique, ni lecteur, jamais personne n'a sorti cette phrase de ce livre pour me dire « Dites-donc, vous avez écrit quelque chose de bizarre, qu'est-ce que ça veut dire ?» Cette phrase, je vais vous la lire. « La littérature est périmée depuis longtemps et les écrivains sont un préjugé du passé. » Ce qui est étrange, c'est qu'il y a quand même 6 ou 7 000 personnes qui ont acheté ce livre et des gens qui ont fait des thèses dessus, et des universitaires qui ont travaillé dessus. Personne, jamais, Donc vous avez écrit une phrase quand même qui est une provocation absolue. C'est bien pire que de dire la poésie est inadmissible. La littérature est périmée depuis longtemps. Les écrivains sont un préjugé du passé. Évidemment, un jour, quelqu'un me la posera la question et je m'exprimerai dessus. Mais il faut être tout le temps, comment dire. Nietzsche disait « Nous sommes définitivement éphémères ». Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est prodigieux de dire ça. Il écrit aussi à un autre endroit « La beauté est une flèche lente ». Phrase sur laquelle je n'ai jamais cessé de m'interroger quand je faisais des photos, quand je regardais mes photos, quand je faisais une exposition et que j'allais voir les images qui étaient au mur. Je me disais « La beauté est une flèche lente ». À propos d'une photo prise au 125e de seconde, je me disais ça. Je me disais, c'est la phrase la plus précise que j'ai jamais lue sur les photos que je fais. Bon, c'est quand même de Nietzsche. Alors, on s'interroge comme ça constamment, on remue des choses, on remue constamment l'énigme du sphinx, c'est tout. Et pourquoi on remue cette énigme? Parce qu'à un moment donné, voilà, on est éphémère, comme le disait Nietzsche aussi, on sera mort.
Le sphinx, c'est le dévoreur, hein, c'est ce qui engloutit.
Le sphinx, c'est celui qui mange les gens qui ne comprennent rien à l'énigme qu'il leur pose. Et bon, une phrase de Borges que j'aime bien, je crois que je l'ai mise dans un de mes livres, je ne sais plus, qui dit cette chose extravagante quand même, il dit « J'ai été Homère, bientôt je serai personne comme Ulysse, et puis je serai comme tout le monde ». Deux points. Je serai mort, comme tout le monde. Ça, c'est la... Voilà. Enfin, un jour, je réussirai à être comme tout le monde. L'apaisement définitif. Je serai mort. En attendant, comme on est des individus et qu'on n'est pas comme tout le monde, on s'obstine à faire quelque chose.
Et ça me fait penser à un livre dont on n'a pas parlé, mais dont le sujet pourrait faire penser à ce que vous venez de dire, qui est l'histoire de Carnac. C'est-à-dire l'énigme absolue de...
Oui, ça m'avait beaucoup amusé d'écrire ce livre, oui, beaucoup.
Mais ça vous a fasciné, cet aspect, au fond, incompréhensible ?
Ce qui m'avait fasciné, c'était la littérature qui s'était accumulée au cours des siècles, disons depuis Rabelais, en tout cas, sur les mégalithes. Les gens s'interrogeant sur les mégalithes et se croyant obligés de construire des systèmes d'explications absolument délirants là-dessus. Et c'est ça qui m'a poussé à écrire le livre sur Carnac.
Au lieu de voir ces alignements comme un simple rythme ou une disposition dans l'espace sans signification.
Non, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est lié à des rites mortuaires et que c'est lié aussi probablement à des problèmes d'observation astronomique. Bon, et alors ? Ça, je veux dire, c'est pas une explication suffisante pour dire que pendant des milliers d'années, des gens, sur toute la surface de la planète d'ailleurs, se sont crus obligés de dresser des monuments de plusieurs dizaines ou centaines de tonnes. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Il n'y aura jamais d'explication au déploiement d'une telle énergie.
Et c'est cette énergie-là qui finalement vieillit bien, parce que le vieillissement est quand même...
Ça vieillit très bien, un mégalithe.
Oui, mais je voulais lancer, pour conclure, comme ces entretiens, on touche à leur fin, que le vieillissement est quand même très important dans votre travail, cette question du vieillissement, du devenir, au fond, de choses qui sont faites très vite et qui vont forcément soit vieillir par elles-mêmes, soit, par exemple, d'une photo à une autre, d'une même personne, des années après, manifester cela.
Le vieillissement est une question de regard. Hein. C'est, je veux dire, le regard qu'on a soi-même sur ce qu'on fait, il faut que ce regard soit pointu, efficace, maîtrisé, qu'il sache constamment ce qu'il regarde, pourquoi il le regarde et comment il va le transformer pour l'éventuel regard des autres. Mais les autres, c'est leur problème de trouver ça un jour daté ou vieilli ou démodé ou sans intérêt, c'est leur affaire. Oui.
Et est-ce que vous aimeriez que tout ce que vous avez produit disparaisse ou ça vous inquiéterait ?
Alors,
les photos peuvent très bien mal vieillir, ne serait-ce que d'un point de vue
technique. Alors je n'ai pas du tout cette obsession qu'ont les écrivains, par exemple, avant de mourir, de léguer tous leurs papiers, leurs bibliothèques, leurs correspondances à des grandes institutions. Et j'en connais qui non seulement se préoccupent de ça, mais font des enquêtes comparatives pour savoir si à la Bibliothèque Doucet ou si à la Bibliothèque Nationale ou si à l'IMEC, on préservera plus, mieux, dans des coffres forts, blindés, anti-radiation ou guerre chimique ou Dieu sait quoi, et qui se préoccupent de ça. Et je connais beaucoup de photographes qui refusent de faire des tirages d'exposition sur tel genre de papier parce que... dans 50 ans, il risque d'être un peu défraîchi. Qu'est-ce que ça peut faire, ça? C'est grotesque, absolument.
Et la littérature, par contre, elle se republie? Vous êtes réédité?
Oui, non, non, j'ai beaucoup de livres. J'ai fait beaucoup de livres chez des petits éditeurs à tirage restreint, à petite diffusion, et qui, évidemment, sont épuisés un jour, où l'éditeur disparaît, et le livre donc disparaît. Et ce sont des livres, en général, impossibles à rééditer sous la même forme. Et ça, ça ne me dérange pas. Je trouve que ça fait partie... ça fait partie de la création d'être... de mourir à un moment donné, ou de ne plus être trouvable facilement. Je trouve ça bien. M'arrive de chercher des livres épuisés... et je trouve ça excitant que le livre soit introuvable.
C'est une manière de se construire un mythe aussi personnel. C'est peut-être nécessaire d'ailleurs, non? Une légende. D'ailleurs, il n'y a pas un livre qui s'appelle Légende de Denis Roche?
Oui. Oui, oui. C'était une autobiographie en photo. Oui, oui. Oui, mais je suis. Comment dire, je suis partagé d'enthousiasme entre l'éphémère et le définitif, entre le délibéré et l'improvisé. Toutes ces situations me conviennent très bien.
C'était À Voix Nue, première et cinquième émission des entretiens de Christian Rosset avec l'écrivain et photographe Denis Roche. Ces émissions ont été diffusées pour la première fois les 4 et 8 mars 2002. Vous pouvez les réécouter pendant 1000 jours et les télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.